Il a bravé le trafic pour venir nous trouver en studio, l'excellent journaliste du Journal Le Québec, Kevin Dubé. Et là, comment ça va, Kev?
Ça va très bien. Comme je disais avant d'entrer en onde, je pense que la prochaine fois que je viens en studio, il faudrait que vous avertissiez vos auditeurs dès le début de votre show que ça va être un avant-midi difficile dans la circulation.
C'est automatique.
Toutes les fois que je viens, c'est ça. Je sais pas pourquoi, je dois attirer ça, mais je suis là puis je suis en feu.
Tu étais en feu et peut-être inspiré par la magnifique ville de Buffalo.
Oui, fantastique. T'étais là pour paradisiaque.
Hey, première question, comment tu... on se demandait ça ce matin. Y a-t-il une traduction littéraire ou directe en français pour les combines? Y a-t-il un mot où c'est comme les tests physiques des espoirs?
Oui, ben il y a camp d'évaluation de la Ligue nationale ou test d'évaluation, mais c'est... Camp d'évaluation, je pense que c'est la meilleure traduction.
OK. Mm. Excitant sur place ou juste ben des jeunes qui s'entraînent dans un gym? Non, mais tu sais, la question, c'est que je me demandais, j'étais là, être là sur place, c'est intéressant, les espoirs sont là, tu vois les prouesses physiques, mais à quelque part, comme y a-tu quoi d'excitant autour de ça ou c'est ben du monde qui font des chin-ups?
Regarde, je veux pas avoir l'air de me plaindre de voyager, là. Mais cette couverture-là, puis, tu sais, normalement, c'est depuis quelques années qu'on le fait comme ça, mais normalement, les médias sont accrédités, puis ça, c'est de la poutine, là, mais les médias sont accrédités pour les tests physiques qui sont le samedi, le dernier samedi de cette semaine-là. Fait que là, c'est là qu'on a de l'accréditation, puis qu'on a accès à tous les tests physiques, on a accès à tous les espoirs. Avant ça, on n'a pas d'accès. Fait que comment ça se passe, c'est qu'on reste toutes nos journées dans le lobby de l'hôtel, puis on regarde, là, tu regardes sur Google la face du gars, tu dis, bon, lui, il faut que j'y parle. Fait que là, tu regardes un peu à quoi il ressemble. Puis là, tu regardes souvent parce qu'ils passent tout par le lobby de l'hôtel pour aller vers leurs entrevues avec les équipes. Fait que là, tu le regardes, tu fais comme, ah, c'est lui. Fait que là, tu pars, tu vas le voir. Des fois, il peut, des fois, il peut pas. Ou bien, tu deals avec les agents. Souvent, c'est ce qu'on fait. Là. On deal avec les agents, puis on dit, garde, t'as-tu son horaire? Moi, j'aimerais ça y parler. Fait qu'il me dit, oui, il va être disponible à 9h30 à telle place. Tu vas le rejoindre à 9h30. Mais c'est beaucoup de lobby. C'est pas très glamour, mettons. Là. C'est beaucoup de lobby d'hôtel, puis d'attente, puis de. Ouais, c'est ça.
Ah, ben oui, OK.
Les gros inside.
Ben oui.
C'est ça.
Mais non, mais à quelque part, c'est ça des fois aussi.
Oui, ben oui.
Il faut que tu. Tu sais, puis là, tu souhaites justement. T'sais, tu dis, j'espère qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Parce que ça va être gênant de l'approcher en l'appelant, tu sais, pas par son nom, puis tout ça. OK,
exact.
C'est quand même cool.
Parmi ce qui retient beaucoup l'attention au fameux combine, les soupers. Puis c'est quasiment un peu un gag de dire, OK, telle équipe a soupé avec tel joueur. Oh, telle équipe a pas soupé avec tel joueur. L'année de Slavkovski, de mémoire, le Canadien avait pas de souper avec Slavkovski. Fait que là, on disait, c'est impossible qu'il repêche Slavkovski. Il n'y a pas eu de souper. Est-ce qu'il y a eu des soupers entre les dirigeants du Canadien et des espoirs?
Ben, de ce qu'on sait, il y a eu un souper avec Caden Lindstrom, qui n'est pas une surprise parce que tout le monde s'attend à ce que le Canadien soit intéressé par lui. Là, c'est un espoir du top 5, c'est un gros... T'sais, Kent Hughes, à la fin de la saison, disait que son but premier, c'était d'améliorer l'aspect offensif de son équipe et l'aspect physique. Ben, Caden Lindstrom coche les deux cases. Fait que je pense qu'il n'y a personne qui est surpris de ça. T.J. Ginla aussi, le fils de Jerome Ginla, a soupé avec le Canadien. Semble-t-il que Sam Dickinson, le défenseur, puis Cole Iserman, aussi l'attaquant un peu controversé, aurait soupé avec les Canadiens. Comme tu dis, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'en prends et j'en laisse. Je pense que ça c'est significatif dans le sens où ça démontre l'intérêt de l'équipe.
Que c'est pas juste une entrevue que vite fait, t'es à notre horaire, puis on prend le temps de souper.
Exact.
Tu fais pas des soupers pour faire des soupers.
C'est ça. Est-ce que c'est parti? Puis dans le cas de Cole Iserman, par exemple, c'est un gars qui était classé très haut au début de l'année. On parlait de lui peut-être même comme le premier choix total. Puis finalement, ben, il y a eu une saison un peu décevante selon certains pour différentes raisons, puis il a glissé au repêchage. Est-ce que le Canadien a voulu peut-être pousser, parce que les entrevues, c'est 20 minutes. Les équipes ont 20 minutes avec les joueurs maximum. Fait qu'en 20 minutes, des fois, t'as pas le temps d'approfondir ou de connaître le joueur tant que ça. Fait que peut-être que des fois, de l'amener à souper, ça aide à avoir des réponses un peu plus élaborées sur certaines choses. Parce qu'en plus de ça, ce qu'il faut dire, c'est que, puis les recruteurs le disent, le combine s'est rendu un peu... ça a moins d'utilité que ça en avait parce que les joueurs sont tellement préparés.
Ouais.
Ils arrivent avec des réponses toutes faites. Les agents les ont coachés à quoi répondre, quoi ne pas répondre. Puis en plus de ça, les joueurs, à la fin de la semaine, quand c'est la 29e entrevue que tu fais puis que tu réponds aux mêmes questions, ben, tu finis par être robotique un peu parce que tu réponds à la même affaire que tu as répondu à la première. Fait que c'est peut-être un peu à ça que ça sert aussi les soupers. À connaître le joueur un peu plus en profondeur, pouvoir avoir accès à la vraie personne, parce que là, à un moment donné, les questions, ça peut pas être juste robotique quand tu soupes avec quelqu'un, puis c'est des discussions un peu plus à la bonne franquette. Mais c'est sûr. Est-ce que ça veut dire que le Canadien va repêcher Lindstrom, Ginla, Dickinson ou Iserman? Non. Mais ça donne quand même un bon indicateur de leur intérêt.
Ben, il y a deux noms qui sont intéressants là-dedans, parce que t'as un défenseur, puis t'as le petit attaquant qui ressemble un peu à Cole Caulfield. le Canadien irait-tu vraiment là? Bon, l'attaquant qui ressemble à Cole Caulfield, Yzerman, si on considère que c'est un talent fou puis on peut pas passer à côté, OK, mais repêcher un défenseur, ça surprendrait pas mal de monde.
Ouais, mais écoute, oui et non, parce que ça dépend toujours de... Tu sais, repêcher, on parle souvent du meilleur joueur disponible au repêchage. Là. Puis là, il y a un débat, est-ce que tu repêches le meilleur joueur disponible ou tu repêches au besoin? Moi, j'ai un exemple précis du Canadien qui a repêché au besoin en 2018 avec Jesperi Kotkaniemi. Comment ça a tourné?
Ouais.
Bon. Le Canadien aurait peut-être pu prendre un ailier gauche, même si à cette époque-là, on disait qu'ils étaient loadés à l'aile gauche en Brady Tkachuk. Puis je pense qu'aujourd'hui, ils s'en mordraient pas trop les doigts.
Ouais.
Tu sais... Ça dépend de la liste que tu as. Si, rendu au choix numéro 5, le meilleur joueur que tu as sur ta liste, c'est un défenseur, puis que le deuxième que tu as, c'est un attaquant, mais qui est 9e, exemple, puis que l'autre est 6e, puis tu vois vraiment qu'il y a une différence entre les deux, prends le défenseur, puis tu dealeras avec après. Peut-être, ouais. Au pire, aller, tu pourras en échanger un défenseur après ça pour un attaquant si jamais tu as besoin de le faire. Fait que, est-ce que ce serait surprenant que le Canadien repêche un défenseur? Ça va dépendre de ce qui va se faire avant, mais c'est sûr que tout le monde s'attend à ce que le Canadien repêche un attaquant. Puis Kent Hughes n'a pas voulu parler au Combine. Je l'ai croisé dans le lobby de l'hôtel, puis je suis allé le voir, puis je me suis présenté pour mettre des choses parce qu'il n'avait absolument aucune idée de qui j'étais. Mais aussi...
Il ne t'a pas checké sur Google pour voir « Ah, ça, c'est Kent Hughes! »
Non, c'est ça. Le petit gars de Québec, il ne connaissait pas. Mais puis là, j'ai demandé, on peut-tu parler? Puis il m'a dit « J'aimerais ça vous parler, mais je sais ce que vous allez me poser comme question. Vous allez me demander si on va prendre un attaquant au cinquième rang, vous allez me demander si on va échanger notre choix de deuxième, notre deuxième choix en première ronde.
Il t'a dit ça?
Ben oui. Puis c'est vrai, c'est ça qu'on lui aurait demandé. Puis il peut pas répondre. Là, ouais. Fait que le Canadien cache bien son jeu. Ce qu'on semble comprendre, c'est qu'ils ont beaucoup d'intérêt pour Ivan Demidov, qui est un joueur russe de qui on a peu d'informations parce qu'il joue en Russie dans la Ligue junior. Les équipes vont pouvoir le rencontrer d'ailleurs à la fin du mois. Puis Caden Lindstrom, de qui je parlais tantôt. Puis après ça, ben là, ça va être de décider est-ce que la différence est assez grande entre les défenseurs qui restent. Puis un ailier à la T.J. Ginla ou Cole Yzerman. Puis je pense qu'il y a beaucoup de discussions enflammées. J'ai hâte de voir, là, tu sais, le Canadien publie souvent des vidéos de dans les coulisses du repêchage puis des discussions. Là. Je pense que celle-là va être intéressante à regarder après le repêchage.
Certainement pas avec le choix numéro 5 du repêchage dans deux semaines à peu près, dans une semaine et demie?
28-29.
Dans deux semaines. Fait que pas avec le cinquième choix, mais y a-t-il des Québécois qui seraient dans la mire du Canadien pour le repêchage?
Ben, écoute, en première ronde, depuis 2009, le Canadien n'a pas repêché de Québécois en première ronde. La dernière fois, c'est Louis Leblanc à Montréal.
Ouais.
Ça a bien été.
Ouais. Il y en a deux, principalement, qui risquent d'être disponibles en première ronde. Sacha Boisvert, qui, lui, c'est un gars de Trois-Rivières, mais qui a quitté le Québec à l'âge de 13 ou 14 ans pour aller vers les États-Unis. Il s'en va à l'Université du Dakota du Nord l'année prochaine. C'est un gros joueur de centre de 6 pieds 2 qui n'a pas encore complètement... atteint sa maturité physique comme la majorité des espoirs de cet âge-là, là. Mais c'est un gars qui a du chien, puis c'est drôle parce que il s'est battu 6 fois l'année passée. C'est un gars qui, puis d'ailleurs, c'est un gars qui vient d'un environnement de boxe. Là. Son père est un propriétaire de gym de boxe à Trois-Rivières et il s'est battu 6 fois l'année passée. Puis ce qu'il disait, c'est que les équipes posaient beaucoup de questions, puis il disait qu'il aimait vraiment ça. Tu sais, fait que ça démontre un peu la différence de mentalité encore entre ce qu'on a ici au Québec avec l'abolition des bagarres dans la LHJMQ, puis ce que la Ligue nationale de hockey cherche. Les bagarres, qu'on aime ça ou pas, ça fait encore partie du jeu dans la Ligue nationale, puis les équipes cherchent encore. Fait que je pense que ça, puis c'est pas un bagarreur, Sacha Boisvert, je dis pas que c'est un goon, là, mais c'est un gars qui est capable de le faire s'il a besoin de le faire. Moi, je pense qu'il va sortir avant 26. Là. Le Canadien repêche 26 en fin de première ronde. Je pense qu'il va sortir avant ça. Et l'autre, c'est Maxime Massé, un attaquant des Saguenay de Chicoutimi, recrue de l'année dans la Ligue canadienne l'année passée, qui a pas connu une saison aussi intéressante ou selon les attentes qu'on avait envers lui cette année, mais il est quand même encore classé fin de première ronde, début de deuxième ronde. Fait que c'est deux gars qui risquent d'être disponibles à ce rang-là.
Concernant Massé, je pense que mon texte préféré de ta série de textes sur le Combine, c'est celui où tu parles de comment la science pourrait venir donner un solide coup de main à ce gars-là. Si tu pouvais nous résumer ça, je pense que tu n'as pas...
Je connais pas l'histoire, par là, j'ai pas lu le texte.
Okay. Je trouve ça vraiment... Je sais pas si c'est juste moi, là, mais moi, je trouve ça vraiment cool.
Ouais, ben écoute, c'est ça. Maxime Massé, pour faire un résumé rapide, là, c'est un gros bonhomme, un gros ailier de droitier. Puis la principale lacune, ce qu'on lui reproche souvent, c'est son coup de patin. Il y a des équipes qui trouvent aussi qu'ils sont un peu paresseux. Souvent, en fin de présence, on a l'impression qu'ils se traînent les pieds un peu. Puis il y a des équipes qui sont. Puis il y a des équipes qui en ont parlé au combine. Ils ont dit on a l'impression que t'es lâche. Puis ça, ça le dérange parce que. Puis ils ont fait des tests. Puis parce qu'il dit j'ai pas l'impression que je suis lâche. C'est juste qu'après 30 secondes, je manque de jus. Je suis plus capable. Il y a rien qui marche. Fait que là, son agence a poussé les tests un peu plus loin. Puis ils ont fait appel avec un spécialiste de l'Université McGill. Puis ce qu'ils ont découvert, c'est que. Il y aurait un problème au niveau du larynx qui fait en sorte que quand il y a un effort trop soutenu dans un environnement froid, comme au hockey, c'est comme si son larynx se fermait, fait qu'il est en dette d'oxygène.
Ah oui.
Mais juste dans un environnement froid.
Juste dans un environnement froid, parce que c'est un gars qui est super en forme. Il a eu des très bons résultats dans les tests de cardio à Buffalo. Quand il va courir dehors, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est quand dans un environnement froid. Fait que là, c'est comme si son larynx se fermait, il manque d'air, puis après 30 secondes, ben là, c'est pas parce qu'il est lâche, c'est parce qu'il n'y a plus de jus. Ouais. Fait que là, ils ont fait des tests, puis ils sont en train de regarder encore les possibles traitements. Il y aurait une espèce de vaporisateur nasal qui ouvrirait les parois nasales pour l'aider à respirer plus que 30 secondes quand il donne un effort. Mais ça, son entourage pense que ça pourrait beaucoup l'aider, puis... C'est un peu une carte cachée parce que les équipes en ce moment, ça se peut qu'ils glissent en bas de la première ronde à cause de ça. S'il fallait que ça règle ce problème-là, puis que finalement, ce soit juste ça le problème, l'équipe qui le repêche en deuxième ronde pour avoir fait. On parle beaucoup de vol au repêchage, là, mais ça pourrait être un très, très bon choix en deuxième ronde.
Hey, c'est cool comme histoire, effectivement, j'aime ça. Mm. Puis, tu sais, il joue au basket, puis on parle jamais de ce problème-là physique avec lui. Là. Kev Dubé, en terminant, petit coup de cœur peut-être. Tu sais, peut-être un joueur qui t'a impressionné, que ce soit avec une jasette que tu as eu avec cette personne-là ou ses performances au combine, t'as-tu un coup de cœur?
Ouais, ben j'ai beaucoup aimé Berkeley Catton, première des choses. C'est un attaquant qui va être repêché en première ronde. Très bonne entrevue. Puis j'ai parlé avec des recruteurs hier qui m'ont dit que c'était dans le top 5 de leurs entrevues aussi au combine. Mais mon gros coup de cœur, c'est Michael Hage. C'est un gars de l'Ontario, mais ses deux parents viennent de Montréal. Il parle très bien français aussi. Puis son histoire est un peu bouleversante. Il a perdu son père au mois de juillet dernier. Un accident un peu bête dans la piscine pendant un barbecue.
OK.
Une soirée. Puis son père est décédé. Donc, lui, il joue pour son père cette année. Tu sais, son père, il disait que c'était son plus grand fan, mais aussi son plus grand critique. Puis c'est à cause de lui que c'est un grand partisan du Canadien, son père. Puis c'est un peu à cause de lui qu'il a commencé à jouer au hockey. Ils ont grandi ensemble en tant que partisan du Canadien. Il parlait des moments qu'il avait vécu l'année que le Canadien s'est rendu en finale pendant la COVID. Donc, c'était très émotif. Tu sais, j'y ai parlé pendant 10-12 minutes en entrevue. Puis tu sais, il était très ouvert, parlait d'à quel point ça lui avait fait réaliser des choses. Que tu remets en perspective certaines affaires aussi. Tu sais, quand tu joues au hockey, des fois, tu as l'impression que quand ça fait 3 matchs que tu n'as pas marqué, c'est la fin du monde. Mais là, quand tu as perdu ton père en juillet, tu te rends compte que ta petite séquence de 3 matchs sans marquer, c'est pas la fin du monde. Fait que j'ai vraiment hâte. J'ai hâte à ce moment-là. C'est un gars qui va te repêcher en première ronde, probablement. Là. J'ai hâte à ce moment-là au repêchage de voir. Tu sais, ça va être très, très émotif.
Pourrais-tu glisser 26?
Peut-être. Peut-être. Je serais surpris, là. Mais peut-être, ça pourrait être... Puis, tu sais, je veux dire, l'histoire serait parfaite. Là,
oui.
Pour son père, fan du Canadien, écrire un scénario de film comme ça, puis le monde va me dire « t'es fou ».
C'est mon chouchou aussi.
Ouais. Ouais. C'est le genre d'histoire qu'on aime pour le repêchage. Là, les deux dernières histoires, Maxime Massé, que tu nous as conté aussi, c'est des histoires qu'on aime avec le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Kevin Dubé, vous pouvez le lire régulièrement dans le Journal de Québec. Il fait une job extraordinaire. D'ailleurs, y a un texte qui sort ce matin, un nouveau texte, ou qui va sortir?
Oui, c'est sorti. Là, je me suis amusé. J'ai pris Caden Lindstrom, j'ai pris T.J. Ginla, j'ai pris Cole Eiserman, j'ai pris Berkeley Catton. Je leur ai posé la question. Je suis le DG du Canadien, pourquoi je devrais vous prendre?
Puis,
les réponses sont dans mon texte.
C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur?
Allez le lire. Mais Berkeley Catton, tu sais, j'ai vendu la
messe. C'est vraiment ton chouchou.
J'ai aimé son entrevue.
C'est clair qu'on va lire ça. Kev Dubé, toujours un plaisir. Merci d'être passé nous voir.
Salut les gars. Boulevard.